I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, on est ravis de vous retrouver avec mon camarade Stéphane Vrignot pour évoquer l'actualité de la Formule 1. Salut Stéphane, prêt pour mettre le cap vers Silverstone?
Exactement, retour aux sources.
On va parler argent aujourd'hui dans les fous du volant puisqu'on va évoquer le plafond salarial en Formule 1 dans la foulée de l'instauration du budget plafonné pour les équipes. Cette fois, il est question de plafonner les salaires. Alors, est-ce que c'est une vraie question qui va concerner tout le monde? Évidemment, vous pensez évidemment comme nous aux pilotes, ou bien est-ce que c'est une hypocrisie? On essaiera de faire la part des choses avec Stéphane. On va également évoquer les qualifications, le véritable baromètre de la rapidité d'un pilote et qui conditionne aussi souvent les rapports de force au sein d'une équipe. Stéphane a épluché toutes les qualifs depuis le début de cette saison et on va faire le point, il y a des choses qui sont plutôt étonnantes. La F1 débarque donc, on l'a dit, le week-end prochain à Silverstone. Lors de ce rendez-vous à domicile, Lewis Hamilton veut briller devant son public, pas d'expérimentation hasardeuse, pas de test. Le Britannique exhorte son équipe à lui donner sa chance pour, peut-être pour gagner en fait, hein, et pourquoi pas. God bless Lewis in Silverstone, ce sera le troisième sujet évoqué dans Les Fous du Volant aujourd'hui. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. On attaque les fous du volant, Stéphane, aujourd'hui avec cette question du plafond salarial en Formule 1. Est-ce que c'est une vraie question ou est-ce que c'est une forme d'hypocrisie? À peine est-on entré dans l'ère du plafond budgétaire depuis cette saison 2022 que la question du plafond salarial a été lancée dans le paddock de la Formule 1. Alors, le plafond salarial, Stéphane, je te propose que tu nous expliques déjà en quoi ça peut consister.
Alors, comme tu l'as dit, le budget plafonné dans les équipes était déjà sur les rails. Il est entré en vigueur cette année, 127 millions d'euros maximum à dépenser pour les équipes. Et puis, en parallèle, en 2020, on a commencé aussi à discuter d'un salary cap, c'est-à-dire d'une restriction, d'une limite pour les deux pilotes, pour l'ensemble des deux pilotes, de 30 millions de dollars, de façon à accompagner ce mouvement. On était en pleine crise, forcément, de la pandémie. Donc, cette idée faisait son chemin. On pensait qu'elle faisait un petit peu consensus. Et puis, depuis, les plus riches ont rétro-pédalé, ou en tous les cas, font semblant de trouver ça intéressant, mais nous expliquent que ça va être difficile de le mettre en place. Mais on était parti aussi de loin sur cette question des budgets plafonnés.
Exactement. La première question, c'est est-ce que c'est réaliste finalement de limiter les budgets, et notamment des pilotes de Formule 1? Quand on regarde, Stéphane, deux cas de figure, les deux équipes les plus riches, en tout cas celles qui dépensent le plus, en Formule 1, on voit par exemple chez Mercedes chez Red Bull, on dépasse largement.
On explose ce quota. Hamilton plus Russell en salaire chez Mercedes, alors on parle même pas des primes, ça fait 50 millions d'euros.
Bon, hein, Russell, il n'y est pas pour grand chose, voilà. Il prend 5 millions.
Tout à fait. Et chez Red Bull, Verstappen est encore à 30 millions d'euros puisqu'il a signé un contrat à partir de 2024 pour, dit-on, environ 45 millions d'euros. Mais déjà, rien qu'avec ses émoluments de cette année, ça fait 30 millions d'euros pour lui et 9 millions pour Checo Pérez. Là aussi, on dépasse à 39 millions d'euros. Donc, ces équipes, forcément, ne sont pas tellement favorables à une restriction. Hamilton s'en est offusqué. Alors, voilà, toi, tu as posé la question, est-ce que c'est pas hypocrite? Moi, je trouve que oui, parce que Red Bull, en fait, s'est empressé, surtout avec cette idée en tête, peut-être d'un salary cap, de re-signer quand même Verstappen jusqu'en 2028. Quelqu'un comme Christian Horner dit aujourd'hui,
Mais en fait, on a signé jusqu'en 2028, il faudrait défaire les contrats, c'est ça, ça n'est pas possible, on est très très embêtés.
Il est malin, alors, parce que quand on a commencé à parler de ça, il a dit oui, oui, c'est une bonne idée. Bon, attends, Max, viens là, il faut qu'on signe jusqu'en 2028. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et effectivement, on ne va pas remettre un contrat sur la table, c'est signé, monsieur, on ne peut pas, on peut pas
alors,
discuter.
Ce qui est incroyable en plus, c'est que cette question des 30 millions de dollars pour les deux pilotes, en termes de salaire, ça devait être entrant en application l'an prochain.
Oui, 2023.
Voilà. Donc,
oui.
Ça a été repoussé soigneusement. La question maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment réaliste dans un environnement où les pilotes, en fait, sont la pièce maîtresse, en fait, du dispositif et font toute la publicité autour de ce sport qui est en pleine croissance.
Alors, justement, tu parlais de Christian Horner. Il a quand même fait une déclaration, moi, qui m'a fait absolument mourir de rire parce que entre le budget plafonné pour l'ensemble des équipes dont Stéphane a parlé tout à l'heure, 127 millions d'euros pour chaque année, maintenant, cette histoire de budget des salaires qui va rentrer en ligne de compte, on va en parler parce que il y a des exceptions qui peuvent éventuellement rentrer en ligne de compte. Christian Horner qui déclare « Le règlement financier est tellement complexe qu'il y aura bientôt plus de directeurs financiers que d'ingénieurs dans les équipes de Formule 1 ». Je trouve cette phrase, elle est magnifique. Elle résume à la fois le cynisme des grands argentiers de la Formule 1 et la situation dans laquelle on est en ce moment. C'est qu'évidemment, on essaye de faire passer des dépenses dans des domaines qui sont exemptés de cette limite de budget. On sait qu'il y a les moteurs ne sont pas concernés par la recherche sur les moteurs n'est pas concernée par ce budget cap. Il y a quand même à un moment l'idée qu'il va falloir essayer de trouver un juste milieu entre ces deux contraintes, le budget cap et le salary cap, autrement dit le plafond budgétaire et le plafond salarial.
Oui, alors concernant ces salaires, seul Red Bull, on l'a dit, et Mercedes sont concernés au-delà de ces 30 millions de dollars. Pour l'instant, Ferrari ne l'est pas. Bon, ça fait à peu près 28 millions d'euros. Leclerc tourne à 9 millions d'euros cette année. Sainz, 5 millions d'euros. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va atteindre tout de suite Ferrari. Mais dans un passé récent, il y a Renault qui a été concerné par ça, parce que Ricciardo touchait 25 millions d'euros par an. Et avec le deuxième pilote, on dépassait cette barre des 28 millions d'euros. Alors, moi, la question que je me pose quand même, c'est est-ce que c'est hypocrite ? Oui, quand même, parce que dans tout ça, c'est une nouvelle mesure pour aller un petit peu plus loin que les budgets de cap. Alors, qu'est-ce que c'est les budgets cap ? C'est restreindre finalement dans une enveloppe donnée. Alors, c'est 140 millions de dollars pour cette année. Hein. On a l'année 2022, c'est la première année de la restriction. Ça veut dire qu'on a contenu tous les salaires, en fait, à l'usine, tous ces employés qui travaillent. Alors, hors de ce budget, est mis de côté tout ce qui est frais marketing, frais de représentation, enfin de promotion, de publicité, etc. Et les trois salaires les plus importants dans l'équipe. Chez Red Bull, par exemple, quelqu'un comme Adrian Newey tourne à 9 millions d'euros par an. Donc, un bon technicien qui vous fait une voiture gagnante, ça coûte ça. Donc, ce qui est quand même pas rien. Et puis, quand on écoute les conférences de presse, un garçon, pour ne pas le citer, comme Lewis Hamilton, mais ils font tous la même chose, quand il remercie à la fin de la course tous les employés qui ont fait des efforts remarquables, etc., bon, il remercie des gens qui se serrent la ceinture. Ouais. Voilà, c'est ça le problème. Et dans les années à venir aussi, on va restreindre ce budget limité à 140 millions d'euros. On va passer à 140 millions de dollars cette année. On va passer à 135 millions de dollars l'année prochaine. Ça veut dire qu'il va encore falloir serrer les boulons. Et quelqu'un comme Christian Horner dit, nous, on a des difficultés déjà par rapport à ça. Et il va peut-être falloir que chaque équipe, pour rentrer dans les clous du budget, se débarrasse de 200 ou 300 employés. Alors ouais. Ça, c'est un peu du chantage. C'est pour vraiment mettre les pieds dans le plat. Mais n'empêche que je trouve qu'il y a une disparité entre les employés qui ont un salaire qui est limité et puis les stars qui vont pouvoir continuer de gagner des dizaines de millions d'euros.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf qu'il y a quand même quelques nuances que je voudrais apporter. D'abord, on t'autorise à dépenser une enveloppe de 140 millions d'euros parce qu'on ne te la donne pas, faut quand même que tu ailles la chercher. En ce moment, tout le monde parle de l'inflation et évidemment, quand vous achetez du matériel en Formule 1, vous n'êtes pas en dehors de la sphère financière mondiale. Donc, il y a de l'inflation. Donc, quelque part, effectivement, la limite, c'est de jouer sur la masse salariale et donc éventuellement de se séparer de certaines personnes. Qu'on ne veuille pas limiter le salaire des pilotes, je vais te dire, je trouve ça logique parce que à la fin des fins, c'est quand même les pilotes qui font le spectacle.
Oui,
c'est quand même leur vie qu'on met en jeu. On est passé tout près d'un accident mortel avec Romain Grosjean il y a à peine un peu plus d'une saison, hein, une saison et demie. Faut pas oublier quand même que ces pilotes, ils mettent leur vie en jeu et que on entend, et c'est formidable, on s'en est réjoui l'année dernière, on a même fait un sujet dans les fous du volant là-dessus, que les chiffres de la Formule 1 étaient en plein développement, que le business était florissant, quand on voit les nouveaux Grands Prix à Miami, tout ça, que la Formule 1 gagne de plus en plus d'argent, et vous voulez dire aux acteurs principaux, non, vous allez gagner moins. Honnêtement, je comprends que ça les irrite un tout petit peu. Donc, effectivement, empêcher la masse salariale, donc des ingénieurs, des salariés, j'allais dire comme vous et moi dans les usines, parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs hyper, hyper intelligents dans les usines, il y a des gens comme vous et moi qui sont aussi bêtes que moi, et qui décrochent le téléphone ou qui font des jobs beaucoup plus banaux, je sais pas, pour vous dire. Bon, bref, donc... C'est ces gens-là qui sont en danger. Et dans le même temps, je te dis, mettre un salary cap pour des pilotes qui mettent leur vie en jeu. Évidemment, le salary cap, on en entend parler en basket, aux États-Unis, tout ça. Mais enfin, les gars, ils ne mettent pas leur vie en jeu en roulant à 300 km/h entre des murs. Il y a une nuance.
C'est un bon principe, mais c'est vrai que c'est eux qui arrivent en bout de chaîne, qui valorisent le travail de toute une compagnie, que leur salaire, quelque part, de toute façon, est proportionné au business qu'ils créent. Donc ça, c'est... On ne va pas aller à contresens. On avait parlé une fois ici, il n'y a pas très très longtemps, de Jackie Stewart, qui dans les années 70, au début des années 70, avait été le premier pilote à gagner $1 million. À l'époque, c'était une somme absolument gigantesque. Maintenant, c'est bon, c'est pas que c'est ridicule, mais c'est devenu complètement ordinaire. Donc, c'est sûr que... Mais je trouve qu'il y a, bon, il y a une disparité, comme je l'ai dit, qui m'interpelle un petit peu. Alors, il y a d'autres patrons d'écurie qui en rigolent un petit peu. Franz Tost, chez AlphaTauri. Non, bah, écoutez, moi, avec une limite de 10 millions de dollars, moi, ça me conviendrait. Je saurais tout à fait faire avec ça. Bon, ça pose problème à deux ou trois équipes, c'est vrai. Sachant quand même que ces équipes ont des résultats aussi et gagnent en fin d'année et se partagent les gains de la Formule 1. Donc, l'argent va toujours aux plus riches, quelque part.
Eh bon, oui.
C'est un paradoxe aussi en même temps. Mais même si on a eu une meilleure répartition des droits sur les petites équipes avec les nouveaux accords Concorde. Mais je dirais que tout ça, on va peut-être arriver à un compromis, comme tu le disais, Gilles. Peut-être qu'il faudrait englober ça dans une enveloppe plus large, c'est-à-dire... On calcule le budget de fonctionnement de l'équipe et le salaire des pilotes. Et puis après, on ajuste, on met la barre où on veut. Si on dépense un petit peu plus sur les salaires des pilotes, eh bien on a un petit peu plus de restrictions pour fabriquer la voiture, pour faire tourner l'ensemble. Je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à trouver à ce niveau-là.
Cette solution, c'est Otmar Szafnauer qui en a parlé, hein, le directeur exécutif, je crois que c'est ça son appellation de Alpine. Il a dit « Je suis en faveur d'un plafond global », donc c'est ce que tu évoques, « pour que les équipes puissent faire un compromis entre les compétences du pilote et l'apport d'évolution, parce qu'en fin de compte, les deux choses apportent de la performance. Il est probablement judicieux de nous laisser la latitude à nous de faire cet arbitrage. » On comprend bien ce qu'il veut dire, là, Otmar Szafnauer, c'est que effectivement, il faudrait sans doute englober, alors peut-être augmenter un petit peu l'enveloppe globale, mais englober le salaire des pilotes dans le budget commun d'une équipe comme ça, y a des équipes qui vont choisir de se payer, éventuellement, on n'en sait rien, mais Williams décide de se payer Hamilton en se disant on va faire une voiture on va mettre moins d'argent sur la voiture. Oui. Mais on aura Hamilton dedans.
Ou l'inverse, hein, de toute façon, aussi mettre le paquet sur le développement technique.
Et puis alors, se dire que tu peux mettre un pilote de milieu de grille et qu'elle va gagner quand même.
Mais ça va peut-être nous amener à une Formule 1 à deux vitesses. Enfin, on est dans une Formule 1 à deux vitesses,
oui,
de toute façon, puisqu'on voit aujourd'hui qu'il y a 5 teams qui n'ont pas de problème, je dirais, de budget de fonctionnement. C'est Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo, Alpine et Haas qui étaient déjà dans les limites budgétaires avant même que le budget cap arrive cette année. Donc, celles-là n'ont pas de problème, n'emploient pas non plus de pilotes stars. Donc, ce sont des équipes qui sont des équipes modèles. Voilà.
Elles sont dans les clous.
Voilà. Le problème se pose pour les autres, clairement. Alors, on va voir ce que ça va, comment est-ce que ça va évoluer.
Donne-nous les chiffres là. Mais pour 2022, on a déjà des estimations qu'on peut faire hein, sur les budgets des grosses équipes.
Oui, parce qu'effectivement, on peut se projeter sur cette année 2022 en comptant alors les trois grandes équipes. Red Bull, Mercedes et Ferrari se plaignent d'une chose, c'est qu'elles ont déjà dépassé, et notamment le budget cap.
Des 140 millions de dollars.
Voilà, c'est ça. Alors, ça faisait 127 millions d'euros. On rajoute à peu près 10%. Elles tournent à 140 millions d'euros, ces trois-là. Et quand on ajoute les salaires des pilotes, on voit ce que ça donne. Le budget réel de Mercedes, c'est 189 millions d'euros. Red Bull, c'est 175. Ferrari, c'est 154. Donc, ces équipes-là sont déjà au-dessus, de toute façon. Donc, c'est un système qui est un petit peu biaisé. Derrière, on a McLaren, 142. Alpine, 132, qui est un modèle, je dirais, de bonne gestion en Formule 1. Voilà. Donc, bon, qu'est-ce que ça va devenir ? C'est clair que si on permet des budgets comme ça qui frôlent les 200 millions d'euros, parce que là, ils vont même exploser. Quand Verstappen va toucher 45 millions d'euros, il touchera 15 millions d'euros de plus. Donc, Red Bull passera à 190. Donc, potentiellement, ils dépasseront Mercedes. Donc, ça va se poser tôt ou tard. Mais je te dirais, Gilles, que je pense qu'en Formule 1, le but même de ces petites équipes, c'est de dépenser autant que les top teams, puisque quand on regarde bien ce que coûte un point en Formule 1, ce sont les équipes qui sont en haut du tableau.
Qui dépensent le moins pour marquer un point.
Exactement.
T'as fait le calcul, Stéphane, c'est, voilà. C'est rigolo. Je ne suis pas sûr que ce soit très instructif.
Mais... Non, mais en regardant simplement le classement du championnat du monde après 9 Grands Prix, on fait une projection sur 22 Grands Prix avec un certain nombre de points. Ça veut dire que Red Bull dépenserait cette année 235 000 euros pour marquer un point. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être là l'exemple, je dirais, de la bonne gestion, parce que Williams, qui est en fond de grille, à la 10e place, là, met plus de 17 millions d'euros pour marquer un point. Donc, ce n'est pas très rentable, cette histoire. Ça veut dire qu'on va aller encore dans un système où il faudra un petit peu freiner, mais où les top teams réclameront de dépenser toujours plus, et certaines même essaient de mettre de côté ce budget cap. Comme Christian Horner chez Red Bull.
La moralité de l'histoire, c'est qu'on dépense moins d'argent quand on est riche. Oui, mais ça, on n'avait pas besoin de la Formule 1 pour le découvrir. On va conclure sur ce sujet simplement en disant que on a mis 20 ans quand même à mettre en place, quasiment 20 ans, à mettre en place le budget plafonné en Formule 1. Donc, ça ne va pas arriver dans 15 jours pour les salaires des pilotes. Mais voilà, on commence à en parler. Il faudra garder ça en tête parce que l'idée, c'est quand même d'éviter une inflation galopante et délirante des salaires des pilotes pour éviter éventuellement ce qu'on voit éventuellement au football.
Et puis le compromis, ça sera peut-être un pilote star par écurie plus un numéro 2 moins payé forcément, mais on n'aura plus deux top drivers dans une écurie qui coûte, je ne sais pas, 80 ou 100 millions d'euros, quoi. On arrivera peut-être à ça au fil du temps, et ce qui fera que là aussi c'est pareil.
Les forces sont réparties sur l'ensemble du
exactement. C'est peut-être, ça sera peut-être l'objectif.
Ça sera peut-être un bien pour un mal. Alors, on sort de la 9e épreuve du championnat cette saison, puisque le Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura lieu le week-end prochain sera la 10e épreuve du calendrier 2022. Et puisqu'on a eu un week-end de libre, eh bien Stéphane s'est collé à l'analyse des résultats des qualifications. Les patrons accordent beaucoup d'importance à ce résultat des qualifications. C'est une sorte de baromètre, en fait, de la vélocité d'un pilote en sport mécanique. Et Stéphane, il y a quand même quelques situations qui interpellent un petit peu quand on compare les situations. On va d'abord s'intéresser évidemment aux Big Three, hein, les trois grosses équipes du championnat, Ferrari, Red Bull et Mercedes, pour voir que Alors, il y a eu 9 Grands Prix, mais par exemple, chez Ferrari, Charles Leclerc mène 8-0. Alors, pourquoi on est resté à 8? Parce que, au Canada, Charles Leclerc n'a pas pris part à la Q2 et donc pas non plus à la Q3, parce que sachant qu'il était pénalisé, qu'il allait partir en fond de grille, il n'a pas participé.
Il n'y a pas eu de match.
Donc, on a estimé que, n'ayant pas confrontation, on ne donnait pas de
points. C'est arrivé dans d'autres équipes comme ça aussi, donc c'est pour ça qu'on ne retrouvera pas
tout le temps
une addition qui fait 9.
Voilà, exactement. 8-0 chez Ferrari. Bon, en gros, le sentiment qu'on avait d'un Sainz dominé par Charles Leclerc, voilà, là, il est brut, il fait mal, ce rapport de force.
Oui, et alors, je dirais que plus globalement, c'est d'abord la domination, je trouve, de Leclerc sur les séances de qualification cette année. C'est un petit peu de là, de ce constat-là, qui est partie de notre réflexion en disant, regardons quand même un petit peu ce qui se passe et présentons ces résultats qui sont en quelque sorte un bon d'essai de la rapidité, de la pointe de vitesse des pilotes. Et ça, les patrons regardent ça plus que les résultats en Grand Prix, parce qu'il y a des pilotes qui peuvent dire, voilà, j'ai moins de points que mon coéquipier, mais j'ai eu beaucoup de malchance. Là, ça, on ne peut pas tricher. C'est suffisamment parlant. Et tout le monde les connaît, ces chiffres, 8-0, c'est vrai. Alors, Leclerc, c'est l'homme du samedi, on le sait, il a fait 6 pole positions, alors que Verstappen a gagné 6 fois. Donc, tu le disais, Gilles,
la semaine dernière.
Voilà, c'est ça. Ferrari avait fait une voiture du samedi, ce qui est vrai, parce qu'elle est rapide. Mais à l'intérieur de cette Scuderia, c'est Leclerc qui domine.
Ouais,
clairement, tout à fait. Avec un Sainz aussi qui est un petit peu faible. J'ai cherché dans ses statistiques. En fait, la dernière fois qu'il a dominé un coéquipier en qualif, c'était Danny Kvyat, c'était en 2017,
chez Toro Rosso.
Voilà. Donc, on le sent vraiment, il est assez faible, Sainz, par rapport à Leclerc. Il l'était déjà l'année dernière. Mais là, je trouve que ça prend une tournure assez inquiétante, 8-0, alors qu'ils l'ont signé 2 ans, on l'a déjà dit. Ils ont peut-être fait un petit peu trop vite.
Chez Red Bull, il y a 6-3 pour Max Verstappen, avec un Sergio Pérez qui donne quand même une belle réplique au champion du monde.
Il a déjà fait mieux que l'année dernière, parce que ça s'était terminé, le rapport de force, par 20 à 2 pour Verstappen. Donc, il a repris un petit peu de la vigueur, c'est vrai. Je ne sais plus où ce qu'il les a fait, ses pole positions. C'était à Monaco.
Oui.
Et puis,
pole position.
Voilà, c'est ça. Il en a fait, voilà. Et puis, il a battu une autre fois Verstappen sur la grille. Donc, on ne s'attend pas à ce que ce soit quelque chose qui s'équilibre. Mais je dirais que…
Il existe.
Exactement.
Et faire 3, marquer 3 fois devant Verstappen, c'est un peu plus difficile qu'avec d'autres coéquipiers. Donc, il y a aussi des points qui valent un peu plus lourd. Alors, chez Mercedes… là, c'est assez étonnant parce que finalement, Lewis Hamilton est dominé de pas grand-chose, mais Lewis Hamilton a été 4 fois devant George Russell, qui l'a dominé donc 5 fois en qualification. C'est un petit peu une surprise quand même.
Entre nous, c'est la grosse surprise, je dirais, Gilles, quand même. J'aurais jamais imaginé ça. Hamilton, la dernière fois qu'il a été battu par un coéquipier, c'était Rosberg en 2014. Il n'a pas du tout l'habitude. Alors après, il y a peut-être des explications. Il n'est pas à l'aise dans la voiture. Les chocs.
On lui fait tester des choses aussi pendant les essais libres.
Exactement.
Et forcément, il a un retard ensuite pour aller chercher de la perfo en qualification.
Je ne sais pas si ça explique tout ça. Il a une voiture qui est moins compétitive cette année. On ne va pas dire qu'il a baissé les bras, sûrement pas. Mais il souffre par rapport à Russell. Moi, Russell, quand même, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, clairement.
Non, clairement.
On va voir après si… Là, ces derniers temps, c'est un petit peu plus équilibré. On va voir comment est-ce que ça va évoluer. Mais déjà, Russell, de toute façon, c'est le pilote qui surperforme en qualif par rapport à un crack. Clairement, c'est l'enseignement de début de saison.
Et le score aurait pu être encore plus lourd, parce qu'il y a eu ce pari assez fou quand même au Canada, où sur une piste encore mouillée, il a essayé de passer des slicks. Ça paraissait complètement fou comme
alors
comme
qu'il pari. Était 2-3 dixièmes devant régulièrement.
On peut penser qu'il aurait été devant et que ça aurait éventuellement pu faire 6-3 à la faveur de George Russell. Ensuite, on a les équipes de milieu de peloton. McLaren, là, ça confirme, 7-2 pour Lando Norris sur Daniel Ricciardo. C'est pas une surprise.
C'est une confirmation. Là encore, c'est une tendance qui s'accentue. Daniel Ricciardo, il sait qu'il est en ballottage
très défavorable.
Chez McLaren, il sait pourquoi. L'année dernière, déjà, Norris le bat 15-7. Donc, il n'y a pas match, là. Et là encore, c'est une surprise parce que Ricciardo, c'était quelqu'un qui était très, très coté. Et bien, maintenant, ça devient un peu un mythe, cette rapidité. Il sait qu'il ne sera plus champion du monde. Et maintenant, il en est à espérer poursuivre sa carrière, juste en Formule 1 prochain, garder son baquet, je ne sais pas par quelle clause qui lui serait favorable, mais je pense que 2023, après, je pense qu'il peut aller se reconvertir en IndyCar ou en Endurance, parce que sa carrière sera faite en Formule 1.
Exactement, effectivement, mais chez McLaren, il y a beaucoup de débouchés possibles. Hein. C'est la chance, entre guillemets, qu'il peut avoir. Chez Alpine, c'est aussi équilibré, hein. 4-3 pour Fernando Alonso face à Esteban Ocon. Là aussi, hein, le total fait 7, mais il y a eu des pépins techniques qui ont fait qu'on n'a pas attribué à chaque fois un point à l'issue des qualifications. Bon, Alonso est encore là.
Ouais, ça continue d'être chaud, puisqu'il avait fini à 11-11 l'année dernière, la stricte égalité. Alonso qui va avoir donc 41 ans à la fin du mois de juillet.
C'est juillet, je crois.
Qu'il est du 29 juillet. Donc ça veut dire qu'il est là, qu'il est bien là, et c'est pas pour rien que le boss d'Alpine, Luca de Meo, lui a dit on va faire comme Alonso.
Tu veux.
Voilà. S'il a envie de continuer, on le suivra. Donc ça vaut reconduction de contrat pour une ou deux saisons. Et ça s'explique très clairement. Et j'ai regardé un petit peu, Ocon n'a jamais eu des chiffres, un petit peu des résultats fantastiques dans ses duels en qualification. Et c'est peut-être un petit peu là qu'il pêche, c'est là qu'on le voit. La dernière fois vraiment qu'il avait pris le dessus, même hein, qu'il avait battu son coéquipier, c'était en 2018. C'était par rapport à Perez, qui passe pas pour un foudre de guerre en qualif. C'était 14-7. Donc c'est ce qu'on attend un petit peu aussi à la lecture de ces résultats-là. Que Esteban Ocon mette la surmultipliée en qualif, puisqu'il est signé jusqu'en 2024, je crois, qu'il est appelé à être le pilote numéro 1. Et il y en a un autre en coulisses, un autre pilote qui pointe le bout de son nez, c'est Oscar Piastri, qui sera certainement en formation chez Williams pendant une ou deux saisons. Mais attention, parce que là, il faut un petit peu muscler son jeu.
On va parler de l'autre Français qui est actuellement dans les baquets de la Formule 1 chez AlphaTauri, Pierre Gasly, 6-3 face à Yuki Tsunoda. Il y a eu une période un petit peu difficile pour Pierre Gasly, ça va un petit peu mieux. 6-3, c'est respectable, mais je crois que l'écart est moins grand que l'année dernière.
Alors, il avait des soucis surtout de matériel, c'est pour ça que Tsunoda existe un petit peu par rapport à lui, mais autrement, on sait qu'il n'y a pas match, hein, clairement, et c'est pas quelque chose qu'on peut commenter au-delà de ça, parce que Tsunoda, on ne sait pas ce qu'il fera même l'année prochaine.
Alors ensuite, il y a des chiffres pour les équipes de fond de grille qui font vraiment beaucoup de dégâts pour ceux qui perdent le rapport de force. Chez Haas, Magnussen, 7, Schumacher, 2. Là, pour moi, ça veut dire beaucoup. Chez Williams, 7-0 pour Albon face à Latifi. Chez Aston Martin, 6-1 pour Sebastian Vettel face à Lance Stroll. Et chez Alfa Romeo, 7-2 pour Bottas face à Joe. Là, il y a quand même des chiffres qui font dire à certains pilotes qu'est-ce que tu as comme projet pour l'année prochaine, à part la Formule 1
Je dirais, je ne veux pas être trop sévère, mais on a quasiment affaire à 4 pilotes payants, Schumacher, Stroll, Joe et Latifi. Donc, ils sont là que pour ça et ils sont dominés par des pointures. Je pense à Vettel et Bottas, c'est quand même une pointure, on a vu. En qualif chez Mercedes, qu'il arrivait quand même à battre quelquefois Lewis Hamilton, ce qui était quand même
référence.
Fausto Veto. Magnussen, normalement, ça devrait passer pour Schumacher, et c'est là aussi où c'est un autre indicateur qu'il a du mal à percer en Formule 1. En fait, il ne perce pas, quoi. Il n'a pas de pointe de vitesse. Et puis Latifi, bon, là, l'affaire est réglée, c'est sa dernière saison en Formule 1.
Ne nous acharnons pas sur Latifi. Alors quand même une petite nuance me concernant. Zou a été les deux points qu'il a marqués face à Valtteri Bottas, j'y tiens. C'est les deux derniers Grands Prix. Donc attention, est-ce que là le rapport de force n'est pas en train de basculer? On verra ça. Valtteri, attention, il va falloir arrêter de montrer ses fesses dans les ruisseaux finlandais. Il va falloir se mobiliser pour les séances de qualification. Alors, tout ça, ça a donné l'envie à Stéphane d'établir une grille type, une grille de départ type. Autrement dit, en prenant la position moyenne de départ de chaque pilote, de voir ce que ça nous donnerait. Alors, c'est évidemment Charles Leclerc qui est le poleman de cette grille type. Deuxième place pour Max Verstappen. Troisième position pour Sergio Perez. Devant Carlos Sainz. Là, les deux hommes, tu m'as dit, sont à égalité, mais Comme oui. Perez a eu une pole position.
Bah, il prend l'avantage.
Ensuite, on aurait une troisième ligne virtuelle avec Hamilton et Russell. Quatrième ligne virtuelle avec Alonso Norris. Ensuite, Bottas Magnussen. Puis Ocon Ricciardo. Gasly Schumacher. Tsunoda Joe. Vettel Stroll. Albon Latifi. Pour conclure cette grille de départ qui est... Alors, c'est totalement indicatif parce qu'évidemment, il n'y a pas de points en qualification.
Je précise juste que sur les 9 résultats, j'ai enlevé le moins bon. Voilà, pour
modérer un petit peu.
Modérer en fonction de la malchance. Là, maintenant, je pense que ça représente un petit peu de toute façon ce qu'on voit week-end après week-end. Mais il y a des choses qui sont intéressantes, c'est vrai. Perez, quand même, troisième, il n'était pas répertorié étant un pilote super rapide.
Et c'est là qu'on voit qu'il a vraiment progressé.
Progressé, hein. Oui, tout à fait. Et la Red Bull de cette année lui convient parfaitement. Je ne sais pas si dans les années passées, je suis même sûr que non, il était dans le top 3 en qualification. Donc, ça veut dire que la voiture lui convient bien et que c'est quelqu'un qui bosse et qui a progressé par rapport à ça. Et puis, il y a des choses qui sont un petit peu plus surprenantes. Alonso. Alors, je vais mentionner juste Hamilton, puisqu'on a vu qu'il avait été dominé par Russell 5-4 et que sur la grille type, ça donne quelque chose de différent, puisque, en fait, quand Hamilton est devant, il y a un écart un petit peu plus grand en termes de place par rapport à Russell, ce qui fait qu'il est juste devant sur cette grille type, de très peu.
Hein. Ouais, ça ne se joue pas grand-chose.
Et puis donc, surtout, moi, ce qui me surprend, franchement, c'est Alonso, 7e.
Le meilleur des autres.
Mais bien sûr, devant des gens comme Norris. Alors, comme Ricciardo, bon, lui, il s'est écroulé, c'est vrai, mais là aussi, tu vois, Gilles, il y a quelque chose qui est assez indicatif, c'est qu'il y a 4 places d'écart entre Alonso et Ocon. Oui. Et quand on voit ces grilles que je fais à titre indicatif tous les ans pour bien regarder un petit peu ce qui se passe, moi, je trouve que quand il commence à y avoir 3 places d'écart, c'est qu'il y a un warning sur le deuxième pilote. Il y a un déséquilibre. Et 4 places, c'est un petit peu plus inquiétant, on va
c'est
dire.
C'est ce qui se passe aussi, d'ailleurs, Kevin Magnussen, joli 10e, d'ailleurs.
Oui, oui, bien sûr.
Et Mick Schumacher.
Et puis, entre Norris et Ricciardo, Norris 8e, Ricciardo 12e, c'est là où on voit aussi qu'il y a un indicateur que, bien, pour Ocon, pour Ricciardo, pour Schumacher, bah, c'est un peu juste, quoi. 4 places, ils sont un petit peu loin. Là où Alonso arrive à se qualifier raisonnablement facilement en Q3, eh bien, Ocon reste à la porte, tout juste à la porte. Alors, peut-être parfois un petit peu par malchance, mais en tous les cas, c'est le fait qu'on... Mmh. C'est même pas quelque chose qu'on analyse, je dirais, ce sont les faits,
ouais, c'est
simplement. Ouais. Et puis alors, tu me parlais de Guan Yu Zhou, mais il a 7 places en retard par rapport à Bottas. 9e, moi, je ne l'aurais jamais mis là non plus avec une Alfa Romeo. L'Alfa Romeo est très réussi quand même cette année. C'est quelqu'un qui se bat, qui a gardé un petit peu sa grinta, malgré une voiture, je dirais, à la base modeste, on va dire. Mmh. L'écurie suisse n'a pas des ingénieurs stars ni des budgets absolument gigantesques. Mais 7 places d'écart, ça veut quand même dire que Guan Yu Zhou, bon... C'est un débutant, il est dans sa première saison, mais je trouve qu'il n'est pas, pas saignant. Quoi.
Il part de loin.
Oui.
On verra ça. Mais voilà, c'était intéressant de voir ces rapports de force et cette grille de départ type. On la comparera peut-être en conclusion de la saison, voir s'il y a des choses qui ont changé. Ça peut parfois,
bien
peut
sûr,
parfois évoluer.
Et puis on pourra la lire aussi dans l'avenir de certains pilotes qui seront peut-être remerciés. Ou en tous les cas, ça donne quand même un petit peu une idée de la cote des uns et des autres, et je trouve que ça reflète assez bien aussi ce qu'on voit le samedi.
Vous savez, vous recevez parfois dans vos boîtes aux lettres des professeurs qui vous disent lire l'avenir dans le mar de café. Bah, Stéphane, il lit l'avenir des pilotes sur les grilles de départ. On passe au troisième sujet des fous du volant qu'on voulait évoquer aujourd'hui. God bless Lewis in Silverstone. Eh oui, parce qu'on arrive sur un des terrains sacrés pour Lewis Hamilton, 8 fois vainqueur sur... l'ancien aéroport de la Seconde Guerre mondiale, avec en plus pour Sir Lewis Hamilton un nouveau package qui est annoncé chez Mercedes pour cette 10e épreuve de la saison. Le but, c'est de profiter d'un asphalte qui est plutôt plus lisse que sur les autres Grands Prix, pas autant qu'à Barcelone, mais quand même pas mal, pour régler la Mercedes un peu moins haut, à être moins embêté par le fameux rebond. Et essayer d'aller chercher un résultat. Il faut quand même comprendre que là, il y a quasiment urgence. Je disais God bless Lewis. presque, il faut sauver le soldat Lewis, Stéphane, chez Mercedes.
Je pense que la nuit à Silverstone, ils doivent limer les bosses en espérant que Lewis ne rebondisse pas dessus. J'ai envie de te dire, Gilles, allez, je pense que Lewis Hamilton peut gagner. Ce dimanche, carrément,
ah ouais,
allons-y.
Carrément. Okay.
Oui, parce qu'il y a, non, mais il a un fluide spécial, il y a quelque chose. Banfull, hein, on est d'accord, c'est lui qui a un petit peu inventé ça, ces communions. Après ses victoires, il a une relation spéciale avec le public, il le pousse, ça le fait faire vraiment des choses extraordinaires. Je pense vraiment qu'il peut nous sortir à 110%. Il s'est fait vraiment un moral au Canada, ça va mieux. Dans le public, on adore qu'on sorte ces drapeaux Hammer Time, ouais. Quand là on dit Lewis, c'est maintenant qu'il faut attaquer, c'est souvent juste avant ou juste après un pit stop. C'est Bono qui lui dit ça dans la radio, it's Hammer Time.
Ouais.
C'est vraiment ça pour dire,
bien.
Voilà, c'est là il faut y aller. Et je pense qu'on va entendre ça et qu'on va frissonner ce dimanche par rapport à ça.
Il faut dire qu'il sort quand même de deux éditions du Grand Prix de Grande-Bretagne qui sortent de l'ordinaire. On se souvient en 2020, sa crevaison dans le dernier tour. Et
oui.
Peter Bonington qui lui dit, secteur après secteur, tu as 10 secondes d'avance sur Max Verstappen, tu as 8 secondes, tu as 6 secondes, avec un calme olympien. Et finalement, il arrive à aller chercher la victoire sur 3 roues. Puis l'année dernière, en revanche, cet énorme accrochage avec Max Verstappen, dont on s'est sorti, dont le monde de la Formule 1 est sorti indemne parce que Max Verstappen n'a pas été blessé, mais c'était très chaud. Et finalement, ça avait été le premier acte de la montée vraiment en tension entre les deux candidats au titre l'année dernière.
Et puis, je pense aussi, Gilles, je mentionne, 2008, ce que Lewis Hamilton tient comme l'une de ses plus belles victoires sous une pluie battante. Et puis 2017 aussi, c'est l'un de ses 6 grands chelems, pole position, victoire, meilleur tour en course et leadership du premier au dernier tour.
Tour, ouais.
Voilà, il a quelque chose. Et puis Lewis Hamilton, il nous dit qu'il ne s'intéresse pas aux statistiques, mais
si, oui,
quand même,
celle-là pèse lourd.
Il peut remporter son 9e Grand Prix national, son 9e Grand Prix de Grande-Bretagne et devenir le détenteur de victoire dans un même Grand Prix qu'il partage pour l'instant avec Michael Schumacher, 8 fois vainqueur en France. Et puis Lewis Hamilton a aussi gagné, il aura une autre cartouche en Hongrie puisqu'il a gagné 8 fois là-bas, donc il pourra essayer de gagner une 9e fois. En tous les cas, on sort de ce Grand Prix à Montréal où il pouvait aussi essayer d'égaler ce record de 8 victoires, c'était raté, c'est pas passé très très loin. Bon, il a jamais eu l'opportunité de gagner, mais il a vu la victoire de plus près d'habitude année, et je pense que là, ça l'a un petit peu remis en selle pour espérer quand même un exploit. Et même chez Mercedes, on ne dit plus avant un Grand Prix,
oui, oui,
no way, c'est pas la peine, on ne rêve pas, c'est dans des circonstances un petit peu particulières. On peut gagner,
oui, oui.
Ça sera difficile, mais on peut.
On peut le faire. Alors, il y a une autre statistique aussi, je pensais que tu allais l'évoquer, c'est que ça fait 15 saisons consécutives que Lewis Hamilton remporte au moins un Grand Prix. Donc là aussi, il est l'égal de Michael Schumacher et il a besoin d'une victoire,
oui,
cette saison pour eh bien, être seul devant dans cette statistique.
Et sur les 9 derniers Grands Prix qui se sont courus à Silverstone, alors j'inclus aussi le Grand Prix du 70e anniversaire.
Oui, parce qu'il y a eu 2 Grands Prix en
2020. Ouais. Voilà, c'est ça. Eh bien, il reste sur 9 podiums quand même. Donc, ça montre qu'il est toujours là, quoi. Je pense que c'est un circuit quand même où il y a un facteur pilote,
oui,
qui est très,
sûr,
très important.
Ouais. Ouais.
Alors, tu l'as dit, Gilles, il y a des nouvelles pièces. Alors, moi, je te renvoie un petit peu à ce qui s'était passé à Montmélo, où l'équipe avait dit, ah là, ça y est, on s'est débarrassé du marsouinage en ligne droite. Alors, tu te souviens quand même que, par contre, dans les grandes courbes, ils avaient dit qu'ils avaient encore ce problème de rebond, que tout n'était pas réglé et que spécialement, la voiture était un petit peu instable à l'entrée de ces courbes rapides. Alors, les Grands Prix qui ont suivi, qu'est-ce que c'était? C'était Monaco. C'était l'Azerbaïdjan, voilà, là où on n'a pas de courbe rapide, mais on a surtout des sections dans la ville, dans la vieille ville, qui sont assez serrées comme à Monaco. Il y a la fin du tour où il y a quelques virages, mais ce n'est pas ce qui demande vraiment des qualités de châssis. Et puis, on sort de Montréal, où là, Toto Wolff a dit, on s'est débarrassé du marsouinage. Alors, on y reviendra peut-être,
ouais,
pour une autre raison, mais là, c'était plus à Montréal, un circuit de stop and go avec des baïonnettes, des chicanes, de la relance, mais pas de grandes courbes en appui où on voit un petit peu, où on pourrait revoir la Mercedes marsouiner, on va dire. Alors, On espère qu'ils se sont débarrassés de ce problème. On va voir, parce que là, Silverstone, ce n'est que ça. Des virages quand même assez rapides en appui. Mmh. Donc, si la voiture a réellement progressé de ce point de vue-là,
ça va se voir.
Là, je dis attention.
Ouais. Ouais. Alors, justement, preuve qu'on y croit quand même un petit peu, Lewis Hamilton, il a demandé à faire une pause dans son rôle de cobaye. On savait que depuis le début de la saison, Mercedes s'appuie beaucoup, évidemment, sur son septuple champion du monde pour tester des solutions, avoir son retour, parce qu'on sait qu'il a un retour technique très, 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 très fin. Bah, là, il a dit, on va peut-être faire un peu pause, là, ce Grand Prix-là, les gars, on va faire des choses comme on sait les faire. Preuve qu'on a quand même envie et qu'on y croit quand même, là, du côté, alors autant des pilotes que de l'équipe, parce que Mercedes n'a que 40 points de retard au classement des constructeurs sur Ferrari, et qu'on n'a pas fait son deuil d'un top 2 au classement des constructeurs, que Russell lui-même n'est qu'à 18 points de la deuxième place détenue par Sergio Perez. 18 points sur 13 Grands Prix, c'est très 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 largement faisable. Donc là, il y a oui, quasiment, j'allais dire, tu vois, appel au drapeau, quoi. Allez, faut y aller.
Alors, je te le fais en décodé quand même, ce qu'a dit Lewis Hamilton, je ne veux plus d'expérimentation, etc. Si vous pouvez mettre les pièces expérimentales sur la voiture de Russell, allez-y. C'est surtout ça ce que ça veut dire, parce qu'il veut être focus dès vendredi, il veut construire son week-end dès vendredi. Il a dit, chez Mercedes, on espère pour lui un week-end aussi sans histoire, on va dire, propre, entre guillemets, que à Montmélo. La référence, c'est encore Montmélo, ouais, et c'est Silverstone qui va essayer de valider ce qu'ils ont vu, les premiers progrès. Ils ont des nouvelles pièces. Tout ça, ça tend à essayer de réduire le marsouinage, mais ils ont toujours ce qu'ils appellent du bouncing, c'est-à-dire que la voiture qui redescend et remonte en fait sur ses suspensions d'une façon équilibrée, on va dire, puisque le marsouinage est un phénomène surtout sur la suspension arrière qui rentre en vibration, en fréquence assez élevée. Donc on va voir ce que ça va donner, mais Lewis Hamilton là-dessus, il ne veut pas qu'on l'embête. Il ne veut pas qu'on l'embête avec des choses un petit peu bizarres. Et moi, je suis persuadé que c'est pour ça, en tous les cas, ce sont des signes qu'il envoie en disant « Là, je suis focus et s'il y a un gros coup à faire, ne vous inquiétez pas, je serai là. »
Je pense à celui qui s'est fait connaître sur YouTube, tu sais, en disant « Leave Britney alone, on va avoir la même chose, leave Lewis alone » pour ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Je ne sais pas ce que tu en penses, je vous le dis franchement, ce n'était pas prévu, mais c'est presque même à souhaiter pour l'histoire de la Formule 1.
Non, mais bien sûr,
que Lewis Hamilton
fasse
un coup. Alors, sans dire qu'il aille gagner, ça serait vraiment extraordinaire, mais ça serait tellement bon pour la discipline, pour lui évidemment, mais ça reste quand même un pilote incroyable.
Je te rappelle le frisson qu'on a eu quand Verstappen, tout grognon, est ressorti de son pit stop au Canada. Il était derrière Lewis Hamilton et on s'est dit « Ah là là,
ça y est, c'est parti.
On est reparti dans le duel, mais qu'est-ce que c'était bon l'année dernière !» Et on a envie de ça, vraiment. Franchement, c'est le troisième homme qui nous manque terriblement. C'est l'homme de tous les exploits. Et on aimerait qu'il écrive encore cette page d'histoire, bien sûr. Alors, sans les soubresauts de l'année dernière, c'est sûr. Je ne sais pas quelle est. On n'a pas regardé la météo. Je ne sais pas si tu as regardé.
J'ai regardé apparemment quelques gouttes le vendredi, mais après, pour le samedi et le dimanche, ça, il ne devrait pas pleuvoir. Mais bon, c'est Silverstone.
Tout à fait. Alors, avec un petit peu de militantisme aussi du côté de Toto Wolff, qui rétropédale un petit peu, puisque les solutions envisagées par la FIA pour réduire le marsouinage, on en avait parlé, ce serait des mesures des forces latérales créées sur chaque voiture, donc une solution particulière pour chaque voiture, dont certaines n'auraient pas besoin en fait de relever ou d'adoucir les suspensions, puisqu'elles ne soumettent pas leurs pilotes à la torture. Et le grand perdant dans l'histoire, ce serait Mercedes.
Ça aurait pu être Mercedes. Donc du coup,
Toto Wolff dit, on n'a plus de marsouinage, ne vous inquiétez pas, voilà, c'est bon. Et il dit que maintenant, c'est plus le bouncing, et c'est plus le talonnage quand il y a des bosses, voilà, et c'est pour ça aussi qu'il milite maintenant pour réduire la hauteur des bordures dans les virages sur certains circuits, puisque ça arrangerait peut-être la Mercedes avec un bitume un petit peu lisse, voilà. Donc franchement, Gilles,
Je regarde le calendrier, je me dis ça, c'est Silverstone, c'est peut-être la meilleure chance de Mercedes de faire un gros coup et de gagner, et donc pour Lewis Hamilton.
Ouais, c'est clair. Honnêtement, sur le calendrier, sur le papier, effectivement, quelque chose qui paraît en tout cas faisable pour les Mercedes. Et peut-être, oui, hein, peut-être, on n'est peut-être pas fan simplement du pilote, on est peut-être simplement en addiction de ce qu'on a connu l'année dernière avec ce formidable duel avec Max Verstappen. On en veut encore un peu. C'est ça, on est addict. C'est inquiétant. Bon, en tout cas, chez Mercedes, on communique aussi beaucoup, Stéphane, sur l'entente hein, entre George Russell et Lewis Hamilton. On a beaucoup glosé sur le fait que, de toute façon, George Russell, il voulait être devant Hamilton. Quel que soit le niveau de la Mercedes, il voulait être devant. Et le message qu'on essaye de faire passer en ce moment, c'est que ça travaille, en fait, tous les deux, en intelligence. Et que c'est grâce à ça que ça peut avancer.
Toto Wolff l'a dit, en fait, il est même assez étonné, il a dit, les deux travaillent ensemble, en briefing, ils se posent des questions, ils vont plus loin dans la recherche, alors que d'habitude, c'est le chacun pour soi,
eh oui.
Je dirais. Mais Toto Wolff a dit, bon, de toute façon, ça s'arrêtera quand on commencera à être devant. Voilà. Mais pour l'instant, ils sont focus, enfin, ils sont poussés vers cette idée de solutionner le mal fondamental de la Mercedes, surtout qu'on est quand même dans le money time. On est dans les derniers Grands Prix avant la pause. Ouais. Et c'est, je pense, juste avant la pause ou juste après que le design de la voiture 2023 sera figé.
Ouais, on rappelle que pendant la pause estivale, les usines s'arrêtent. Les ordinateurs sont débranchés et on ne travaille plus. Ça veut dire qu'effectivement, là, on est quelque part virtuellement à la fin de la conception de la voiture de l'année prochaine. Donc, il y a beaucoup d'échéances aussi qui rentrent en ligne de compte. On avait besoin chez Mercedes des datas de Barcelone pour faire les pièces pour Silverstone, mais aussi pour anticiper, hein, rappelle-toi tout ce qu'on a dit, pour anticiper pour la voiture de l'année prochaine. Là, on est quelque part, oui, tu as employé le mot de money time, sans doute dans un moment crucial de cette saison et de la prochaine saison.
Je pense que c'est ce qui se passe dans toutes les écuries, d'autant plus qu'il y en a qui vont commencer à arrêter en fait le développement technique. On pense à Haas qui a reporté d'un ou deux grands prix l'installation de nouvelles pièces sur sa voiture. Et après, ils ont dit c'est terminé, après on sera sur 2023. Voilà, il y en a d'autres qui vont faire comme ça aussi pour des questions diverses de budget, etc., d'enseignement déjà de cette année pour corriger le tir pour l'an prochain. Donc ça veut dire que même Mercedes n'échappe pas à cette loi.
Exactement. Bon alors, maintenant, on se risque un peu, Stéphane.
Ah ben moi, je me suis risqué déjà,
ah
donc il
ouais,
n'y a pas de problème.
Que tu pouvais gagner, bon, bah écoute.
j'ai pas dit une pole position, mais une victoire, ouais. Oui. Alors, sachant quand même que je regardais, Toto Wolff disait, on a plus une voiture de qualif que de course. Mais en course, on a quand même vu que, en qualif, on a vu qu'ils sont encore un petit peu loin du compte.
Bon allez, moi je le mets sur le podium, mais pas vainqueur quand même. Je pense qu'il reste encore un petit peu de marge pour la Mercedes et Lewis Hamilton. Les rendez-vous, d'ailleurs, on peut vous les donner de ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Vendredi, la journée débutera à 13h avec la première séance d'essai libre. La deuxième sera un petit peu plus tard. Samedi, la qualif à 15h et la course, le Grand Prix de Grande-Bretagne, aura lieu donc dimanche à 15h. Ce podcast, Les Fous du Volant, est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez directement les nouveaux épisodes sur votre smartphone. Stéphane, je crois qu'on a été complet. On a donné beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques aujourd'hui. Ça permettra aux amateurs de Formule 1 d'attendre jusqu'au Grand Prix ce week-end.
Oui, Adrien nous dira si on a été long ou pas.
C'est bien.
D'accord. Adrien, qu'on salue notre réalisateur, Adrien Yo.
Exactement. Oh, on a fait un peu moins de 40 minutes. On s'est parfois laissé aller à beaucoup plus. Alors, on espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à nous faire remonter vos impressions. Stéphane, on s'est tout dit ?
Oui, et maintenant ?
Eh ben,
on coupe le contact.